Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le Tao, traduit par la voie ou le chemin, dont on peut découvrir les principes dans le livre Le Tao Te Ching, aurait été écrit par Lao Tzu, sans doute, comme les Confucius, un personnage fictif. Ce qu'on connaît le mieux de la Chine, le yin et le yang, le corps comme paysage, le monde comme miroir du corps et l'acupuncture ou encore le non-agir, participe du Tao. Mais cette émission permet surtout d'entendre deux parmi les plus grands sinologues européens. Christopher Schipper, auteur du livre Le corps taoïste, qui décrit et analyse la manière dont le corps social, le corps physique et le corps cosmique sont imbriqués dans cette pensée, qui est aussi bien entendu une pratique. Il a fondé et dirigé le Centre de documentation et d'études du taoïsme de l'École pratique des hautes études et il a été également directeur de l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France. Cet immense savant fut l'un des rares occidentaux à donner des cours sur la pensée chinoise en chinois. Les autres savants qui pratiquent cet exercice étant en général eux-mêmes d'origine chinoise. Et autre immense érudit qui participe à l'émission, Max Kaltenmark, qui dirigea le Centre d'études sinologiques de Pékin de l'École française d'Extrême-Orient et fut ensuite directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Personne ne pouvait donc mieux, dans la série « L'autre scène, les vivants et les dieux », parler en 1977 des taoïstes ou les maîtres du temps.
Dans la série de Claude Metra et Philippe Nemo, L'autre scène où les vivants et les dieux, Denise Barrère vous présente ce soir les taoïstes ou les maîtres du temps, avec les témoignages de Max Kaltenmark et de Christopher Schipper. Texte taoïste dit par Roger Brett et Roland Ménard. Réalisation Georges Godbert.
La Chine a toujours semblé aux Occidentaux que nous sommes un pays mystérieux. Les accords de la mélodie taoïste que nous entendons rappelle les légendes de ces héros qui poursuivent inlassablement la fleur d'immortalité. Et cette quête paraît être en effet le but ultime qu'essaient d'atteindre les adeptes taoïstes. Il existe aussi des peintures nous montrant des sages rencontrant des immortels qui se promènent à la frontière de leur pays entourés de brume. Or, les fidèles taoïstes qui, sur cette terre, ont eu le privilège de rencontrer un immortel sont rares. Moins rares cependant, ceux qui parcourent encore le monde pour cueillir cette fleur d'immortalité. Avec une infinie patience, ils tentent de la découvrir dans les replis des montagnes, dans les rencontres qui se présentent à eux, dans toutes les situations qu'offre la vie. Mais la fleur d'immortalité existe-t-elle ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle figure l'aboutissement d'un long parcours, et ce parcours peut suivre des voies tout à fait différentes. Les recherches que vous aviez entreprises sur les religions chinoises vous ont naturellement conduit, Maxime Kaltenmark, ainsi que vous-même, Christopher Schipper, jusqu'en Chine. Et là, les personnages fabuleux que vous observiez avant votre départ dans les peintures chinoises se sont alors en quelque sorte détachés de leur toile pour venir à votre rencontre. Car peu après votre arrivée en Chine, Christopher Schipper, vous avez pu pénétrer chez les taoïstes.
En effet, la réalité était bien différente. de ce que j'avais pu penser lorsque je fis mes études avec Max Kaltenmark à Paris pendant de longues années. J'étais pendant bien des années son seul élève. Nous avions parcouru cet immense trésor qu'est la littérature taoïste, si mal connue, même des spécialistes. Je veux dire des sinologues. Et puis un jour, ayant fait ma thèse en tant que membre de l'école française d'Extrême-Orient, je suis allé à Taïwan pour une période illimitée. Et alors c'était la réalité. Des taoïstes, il n'y en avait nulle part. Bien sûr, il y avait des gens qui avaient lu les mêmes livres que moi et qui parlaient en amateur. Puis il y avait toutes sortes d'individus un peu farfelus, n'est-ce pas, qui présentaient des recettes de longue vie, d'hygiène taoïste. Mais ce n'était pas la réalité. Ce n'était pas la vraie pratique taoïste telle qu'elle aurait dû ou pu exister à un certain moment en Chine. Et je croyais même que ça n'existait plus, que cela appartenait à une Chine à jamais révolue et que je ne pensais certainement pas que dans ce recoin limitrophe de la Chine, que Taïwan, il y aurait encore quelque chose d'une tradition véritable. Personne n'est venu à ma rencontre. Au contraire, c'était par un accident que, non content de mon entourage trop académique, très américanisé d'ailleurs, que je connaissais à l'Académie des sciences à Taipei, que je me suis rendu dans des communautés paysannes, dans le sud de l'île, et que j'ai pu participer à leur fête. Or, il se trouvait qu'à une très grande fête, une fête qui a lieu tous les 5 ans, et à laquelle participe toute une région, près de 40 villages de paysans paysannes qui se réunissent à cette occasion avec leur milice populaire, leur théâtre, leur procession, qu'à cette grande fête avait lieu une retraite dans le temple communal, dans le temple régional, avec les chefs de la communauté, les vieux paysans, les chefs des lignées, qui s'enfermaient pendant une semaine avec ce qu'on appelait des taoches, des maîtres taoïstes. Ces maîtres taoïstes étaient des hommes comme eux, ils n'appartenaient à aucune organisation ecclésiastique. C'étaient des gens du peuple, des paysans, des boutiquiers, mais qui dans leur famille avaient conservé une tradition liturgique dont ils pensaient être les seuls détenteurs. Après de longs pourparlers, des offrandes, des dons, des purifications qui duraient plus d'un mois, j'ai pu entrer aussi dans le temple pendant cette période sacrée où on allait renouveler, si vous voulez, la vie, la flamme, la chance, le bonheur de toute cette région. La retraite a duré une semaine. Jour et nuit, inlassablement, on faisait des rituels, des danses. Personne ne les voyait. Parfois, les chefs de la communauté étaient présents, parfois aussi, ils étaient absents. On faisait tout un spectacle pour personne. Les maîtres taoïstes, habillés de robes brodées, à la façon des anciens fonctionnaires de la cour de l'époque des Ming, faisaient ça entre eux. Et puis, à chaque étape, ils avaient un texte, un livre. Ils sortaient ça d'une grande caisse qu'ils avaient apportée, avec tous les autres parements, les oriflammes, les drapeaux, les instruments de musique, les lampes, tout ce qui faisait leur autel, leur espace sacré. Pour chaque rituel, jamais les mêmes, il y avait des manuscrits qu'ils avaient apportés. Ils ouvraient ces livres, ils lisaient, ils chantaient, ils faisaient ce qui était écrit là, puis ils le reformaient, ils l'enveloppaient de soie jaune, et puis ça disparaissait à nouveau dans les caisses. Et puis un jour, je me suis approché. Moi qui étais un peu sceptique, je pensais que si c'était là des taoïstes, c'était quand même très différent de ce que je m'imaginais. Et puis je me disais aussi, en tant qu'universitaire français, que ça devait être bien dégénéré, bien loin justement de l'idée que j'avais d'un taoïsme pur, d'un taoïsme mystique. que c'était en somme peut-être un dernier témoignage, mais bien dégénéré. Alors moi, je me suis approché justement de la table d'hôtel et j'ai vu quels étaient les manuscrits que ces gens détenaient. Ils étaient souvent datés, c'était ancien, 2-3 siècles. Puis les textes, à ma grande surprise, je les reconnaissais. C'était des textes du taoïsme liturgique que nous connaissons déjà depuis l'époque des Tang, c'est-à-dire depuis le 7e, 8e, 9e siècle. Exactement les mêmes textes. Et alors, ces gens, ils faisaient ces rituels, ils savaient les faire. Moi, je m'étais posé beaucoup de questions à propos de cette vaste littérature liturgique que j'avais connue par les livres ici à Paris, mais dont la clé semblait à jamais perdue. Qu'est-ce que veut dire marcher dans le vide, par exemple, qu'on doit faire au début de chaque grand rituel? Je pensais à une élévation, une méditation. Mais non, c'est une danse, c'est un chant. C'est un chant accompagné d'une danse qui se situe en début de l'audience. L'audience auprès du Tao, qui est une des métaphores du rituel taoïste. Et puis d'autres questions aussi venaient à moi, et les gens savaient répondre, ils connaissaient la réponse. Bien sûr, comme j'étais là en explorateur, je me disais, est-ce qu'on peut photographier ça? Est-ce que je pourrais prendre un microfilm, hein, par exemple, ou enregistrer? Il n'en était pas question.
Oui, les hommes de l'Occident ont toujours éprouvé des difficultés à s'adapter aux longues cérémonies d'approche qui caractérisent les coutumes de la Chine. Or, ce qui est vrai dans la vie courante, les plus encore lorsqu'il faut aborder le domaine plus secret de l'initiation religieuse. Pour gagner la considération d'un maître taoïste, ou plus exactement, pour obtenir le moindre battement de paupières du maître, un regard qui pourrait témoigner d'un tout petit intérêt, il ne faut pas compter les jours ou se fixer une date. Car l'approche qui semble interminable à celui qui veut rapidement découvrir les secrets de la connaissance est en elle-même un début d'initiation. C'est en effet la première épreuve dont le disciple doit sortir vainqueur. Soit que l'impatience le gagne et le pousse à abandonner sa quête. C'est le signe qu'il n'était pas apte à recueillir le savoir des sages. Soit qu'il effectue une première métamorphose sur lui-même en changeant sa perception du temps, et il pénètre alors sur la voie de la sagesse. Ainsi, sans paraître avoir prêté la moindre attention à son disciple, le sage l'a déjà transformé.
Assieds-toi, je vais te dire ce que j'ai appris de mon maître. 3 ans après que je me fus mis à son service, mon esprit n'osait plus distinguer le vrai et le faux. Ma bouche n'osait parler de l'utile et du nuisible. C'est alors que pour la première fois, j'obtins un regard de mon maître. Au bout de 5 ans, mon esprit se reprit à distinguer le vrai et le faux. Ma bouche se remit à parler de l'utile et du nuisible. Alors, pour la première fois, le visage de mon maître s'éclaircit et il sourit. Au bout de 7 ans, je pus libérer mes pensées. Elles n'avaient plus notion du vrai et du faux. Je pus libérer ma parole. Elle ne concernait plus l'utile et le nuisible. Alors, pour la première fois, le maître m'invita à m'asseoir près de lui sur sa natte. Au bout de 9 ans, je pus laisser libre cours aux pensées de mon esprit et aux paroles de ma bouche. Je n'avais plus conscience d'une vérité ou d'une erreur, d'une utilité ou d'une nuisance qui m'eussent concerné ou qui eussent concerné autrui. Et je n'avais pas davantage conscience d'avoir un maître ni d'avoir un condisciple. L'extérieur et l'intérieur étaient confondus. Et dès lors, mes yeux furent comme mes oreilles comme mon nez comme ma bouche. Tous mes sens étaient identiques. J'eus le sentiment que mon esprit se figeait, que mon corps se désagrégeait, que mes os et ma chair se dissolvaient. Je ne sentais plus que mon corps appuyait sur quelque chose, ni que mes pieds foulaient le sol. Mais je me laissais porter à l'est et à l'ouest par le vent, comme une feuille ou un copeau desséché. Et je ne savais finalement si je portais le vent ou si le vent me portait.
Le vieux maître, qui était là, il avait déjà 60 et quelques années, m'a expliqué en hokkien. Il ne parlait pas chinois comme les Chinois de Pékin, il parlait une langue du sud que j'ai dû apprendre par la suite. Il m'expliquait que cela ne se transmettait qu'à l'intérieur d'une famille et qu'il fallait être membre de cette famille, être fils de cette famille pour pouvoir être initié à tout cela. Alors je lui ai dit, mais vous savez, ces mêmes textes, moi je les ai aussi, mais je les ai dans une édition très ancienne, dans l'édition du canon taoïste qui date du 15e siècle et qui a été réimprimée par hasard, justement, de la fortune de l'édition chinoise du 20e siècle. Mais eux, ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne connaissaient pas toute cette littérature taoïste qui remplit nos bibliothèques. Ils avaient transmis leur tradition de père en fils depuis plus de 30 générations. Et ils pensaient d'être les seuls détenteurs de cette tradition, avec quelques autres familles analogues. C'est une longue histoire que je ne pourrais pas raconter dans le détail, mais de toute façon, je suis devenu un d'eux. J'ai été adopté dans cette famille, selon les règles, avec un sacrifice aux ancêtres, avec un contrat passé entre nous. Je suis devenu un fils de ce vieux maître que j'ai rencontré là, par hasard. Et je dois dire, j'ai eu de la chance car cette adoption a été ressentie comme tout à fait sérieuse. Je correspondais à un besoin. Ce métier se perd. Il y a de moins en moins de gens qui veulent apprendre cela, c'est très compliqué. L'apprentissage prend au moins 20 ans. Rien que la musique, n'est-ce pas, qui joue un rôle précis prépondérant, est composée de centaines de mélodies différentes et avec des systèmes de rythme, d'accompagnement qui continue à poser des problèmes, même pour les spécialistes de l'ethnomusicologie. Alors, ils étaient au fond très heureux d'avoir un acolyte plus, quelqu'un qui pourrait prendre place dans l'orchestre, et c'est ainsi que j'ai commencé mon apprentissage. J'étais docteur, j'étais membre d'une académie. Or, il a fallu que je me déchausse, on ne porte pas de chaussures, je ne pouvais pas me laver pendant ces longues périodes de retraite, je marchais pieds nus donc dans les processions, durant les services, les grands services, les services plus réduits qui sont les services funéraires, les exorcismes, et j'étais là avec mon petit instrument de musique. On m'avait confié un petit cymbale et on m'avait dit voilà, alors vous suivez le cantor principal, celui qui se tient à côté du maître et qui psalmodie tout le service, quand lui, il donne un coup sur le tambour de bois, vous vous donnez deux coups. Il fait « croc » et vous faites « ping, ping ». Voilà. Pendant 6 mois, j'ai fait ça. Inutile de vous dire que mes collègues académiciens étaient tant soit peu scandalisés, car que cette tradition populaire, cette tradition taoïste, n'est-ce pas, qui se trouve aux antipodes de la tradition officielle de la Chine, n'était pas très considérée, pour ainsi dire. Elle était plutôt méprisée. Mais c'était grâce à cet apprentissage que, d'une part, je pouvais suivre, je pouvais être présent. Et puis, je pouvais petit à petit comprendre. Et aussi, on me passait un par un ces précieux manuscrits qui viennent s'ajouter à notre documentation qui nous explique, qui nous donne la clé de, pour ainsi dire, du comment et aussi du pourquoi du taoïsme communautaire tel qu'il est existé en Chine depuis plusieurs millénaires. Et petit à petit, alors, j'étais initié, mais sans jamais pouvoir poser des questions. Il m'était déjà dit dès le début que je ne recevrais pas un enseignement, on m'apprendrait comment faire. J'ai donc, pour ainsi dire, suivi l'apprentissage qu'ils réservent à leurs propres fils, à leurs propres membres de la famille.
Les sciences les plus contemporaines sont en train de découvrir le pouvoir immense de la musique sur les individus. On sait que certaines tonalités, en particulier les ultrasons, agissent sur notre système nerveux. La cadence d'une mélodie peut transformer notre être. Ce que de nos jours on étudie systématiquement était en fait connu depuis la plus haute antiquité. La cadence de certains hexamètres grecs avait un pouvoir évident. Et le rythme des tam-tams africains régularise les battements de cœur des assistants. C'est d'ailleurs un des moyens qu'utilisent les sorciers pour calmer ou pour faire entrer en transe. Il est sûr que les taoïstes aussi connaissaient ces secrets. On comprend alors pourquoi le futur initié devait subir un apprentissage du rythme qui aurait pu lui sembler vain et monotone.
Les oiseaux dansaient, les poissons sautaient. Désirant acquérir le même talent, Cheven quitta sa famille pour s'attacher à Shexian. Il passa d'abord 3 années entières à s'exercer au doigté et à la touche, sans jouer aucun air. Le jugeant peu capable, Shexian finit par lui dire « Vous pourriez retourner chez vous ?» Déposant sa cithare, Cheven dit en soupirant « Non, je ne suis pas incapable. Mais j'ai un but, un idéal plus haut que le jeu classique ordinaire. Je n'ai pas encore ce qu'il faut pour communiquer aux êtres extérieurs l'influence issue de mon cœur. Voilà pourquoi je n'ose pas faire résonner ma cithare. Elle ne rendrait pas encore les sons que je voudrais. Puisqu'il faut que je parte, je pars. Mais ce ne sera qu'une absence. Nous nous verrons bientôt. » De fait, pas bien longtemps après, Cheven revint chez Shexian. « Où en est votre jeu ?» lui demanda celui-ci. « J'ai réalisé mon idéal, » dit Cheven. « Vous allez voir. » On était alors en plein printemps. Cheven toucha la corde Shang, qui répond au tuyau Nan et à la saison d'automne. Aussitôt, un vent frais souffla et les fruits mûrirent. Quand en automne il toucha la corde d'Iao, qui répond à la cloche d'Ia et à la saison du printemps, un vent chaud souffla et les plantes fleurirent. Quand en été il toucha la corde U, qui répond à la cloche Wang et à la saison d'hiver, la neige se mit à tomber et les cours d'eau gelèrent. Quand en hiver, il toucha la corde Chen, qui répond au tuyau Juipin, et à la saison d'été, les éclairs brillèrent et la glace fondit. Enfin, quand il toucha simultanément les quatre cordes, produisant l'accord parfait, une douce brise souffla. De gracieux nuages flottèrent dans l'air. Une rosée sucrée tomba du ciel et des sources vineuses jaillirent de la terre. Frappant sa poitrine et bondissant, Josiane dit « Quel jeu vous possédez ! Il égale ou surpasse en puissance celui de Tchekoum et de Tzoyen. En votre présence, ces maîtres devraient déposer la cithare et prendre le flageolet pour vous accompagner. »
Pour acquérir le pouvoir extraordinaire de précipiter les saisons, a d'abord passé 3 ans sans jouer aucun air, rejetant les sons impurs, ceux de l'agitation du monde. Il semble avoir voulu capter l'harmonie primordiale par le mouvement exact de la main faisant vibrer la corde de luth. On a le sentiment que son être a été traversé par la musique pour devenir un prolongement de cette corde. C'est par un acte qu'il restitue une harmonie. C'est pourquoi le geste adéquat paraît beaucoup plus important que le discours, fût-il celui du plus grand maître.
Le taoïsme, c'est l'enseignement sans parole. On apprend une technique, on n'apprend pas une doctrine. On n'apprend pas de catéchisme, on ne pose pas de questions. On apprend comment faire en entrant par la musique. Après mon petit cymbale, j'ai joué du tambour, les grands gongs. Et puis, on m'a confié un petit rôle d'acolyte, de garçon de cœur, si vous voulez, en étant celui qui est chargé de s'occuper de l'encens, et donc de veiller que l'encens est allumé au bon endroit et que tout le monde qui doit présenter de l'encens ait de l'encens brûlant, des baguettes d'encens au moment voulu. J'ai rempli ce rôle pendant 6 ans. Certaines récitations m'étaient dévolues. En tant qu'étranger, j'ai dû apprendre la prononciation savante du chinois telle qu'elle se fait dans la Chine du Sud. Et comme le rythme, la musique, les chants, évidemment, par ma formation occidentale, m'étaient très difficilement accessibles, je me suis spécialisé dans la récitation des livres sacrés, des longues litanies qui prennent parfois plusieurs heures, jusqu'à 14 heures d'affilée de récitation. Et pour me permettre d'accomplir ces longues psalmodies, il faut pour cela développer une technique de la respiration qui vous permet en effet d'accomplir ce travail. Et c'était cela, en somme, mon apprentissage.
Toutes ces techniques permettent de se concentrer. Avant les célébrations liturgiques, il faut d'abord appeler en soi les souffles les plus purs. Il faut ensuite choisir avec précision les instruments de musique. Le tambour que vous venez d'aller chercher n'a certainement pas la même fonction que cette clochette, mais tous les deux doivent être indispensables. Comment cet accord des instruments se déroule-t-il ?
Les instruments de musique dans le taoïsme représentent par leur son les forces de l'univers, les souffles. Et au début de chaque rituel, il convient d'accorder les instruments de musique pour retrouver l'harmonie universelle. C'est pour cela qu'au début de chaque rite, on frappe un certain nombre de fois les différents instruments de musique, ou plutôt les instruments de musique qui représentent les essences du ciel et de la terre, qui sont d'une part, pour la terre, la pierre sonore, le ting, et puis pour le ciel, la cloche et le tambour. Alors, on dit frappons la cloche d'or, c'est-à-dire la voix du ciel, 9 fois. 9, c'est le chiffre yang, le chiffre de la force mâle et le chiffre du ciel. Tin Kim Jong Kyu Sing. Kim Jong Kyu Sing Ye Bi. Tse Kyo King Liu Sing. Maintenant la voix de la terre. Kyo King Liu Sing Ye Bi. Alors un jour est venu le moment où j'allais être alors réellement initié. En effet, dans ces familles taoïstes, la majorité des membres restent au stade d'acolyte pendant toute leur vie. Il n'y a qu'une personne par génération qui apprend aussi l'autre aspect. Je peux dire l'aspect plus profond, l'aspect sous-jacent du rituel. L'efficacité du rituel, en réalité, ne réside pas seulement dans le spectacle, pas dans la prononciation des prières ou des œuvres ou des danses ou tout ce que nous voyons comme messe taoïste. L'efficacité réside dans le fait que le rituel opère à plusieurs niveaux, à plusieurs strates. Il y a le rituel visible, vous voyez un maître taoïste accompagné de 4 acolytes, puis il y a un orchestre de percussions et parfois quelques instruments mélodieux qui l'accompagnent. Mais en réalité, tout cela, ce n'est que l'aspect extérieur. Le vrai travail, le vrai rituel n'est connu que du maître lui-même. Et même ceux qui sont à côté de lui ignorent cette phase essentielle, cette strate essentielle du rituel et qui est une strate intérieure, une phase intérieure. En effet, pendant que le rituel extérieur, les chants, les danses, etc. a lieu, le maître taoïste accompagne, en concordance parfaite avec ce qui se passe à l'extérieur, il accompagne un travail intérieur, un mouvement de ses souffles, de ses sens, de ses énergies à l'intérieur de son corps, en méditant sur certaines images, certaines couleurs, en s'orientant de différentes façons, en réglant sa respiration, qui est la contrepartie intérieure, si vous voulez, de ce qui se fait, du spectacle qui se fait à l'extérieur. La véritable initiation, c'est justement ce rituel intérieur. Et comment ces deux phases ou ces deux strates peuvent concorder, eh bien, c'est par le langage musical. On considère en effet que le rite, le li en chinois, divise les gens. Chacun a sa place, chacun a sa partie particulière, chacun a sa place individuelle. Tandis que grâce à la musique, grâce au rythme, surtout grâce à la voix du tambour, qui est la voix du ciel, dans les conceptions taoïstes, nos mouvements, nos pensées, nos émotions peuvent communiquer. Et c'est donc grâce à la musique, grâce au rythme surtout, que, en même temps que les acolytes psalmodient, chantent, le maître, lui, il peut faire une action concordante à l'intérieur de son corps. Et c'est ce travail, cette osmose de l'extérieur et de l'intérieur, cette façon de les confondre, cette fusion entre l'intérieur et l'extérieur qui est, pour ainsi dire, l'essentiel, le secret, le mystère des taoïstes. Et c'est par cet aspect-là aussi que le rituel taoïste, en somme, se rattache à la grande tradition taoïste de la méditation et de la culture des forces vitales à l'intérieur de soi-même.
L'univers des taoïstes est un univers étrange dans lequel on s'enfonce peu à peu. Les événements qui s'y déroulent présentent de multiples facettes. Un rituel offre l'aspect d'un spectacle musical, mais comme vous venez de le dire, la vérité de ce rituel est tout autre. Ainsi, ce que l'on voit n'est pas ce qui est. Entre la veille et le sommeil, la vie et la mort, le mouvement et l'immobilité, la frontière est extrêmement ténue. Et pourtant, c'est précisément dans cette région frontière qu'il faut tenter de percevoir une vérité. On songe à la mésaventure survenue à une compagnie d'acteurs de Pékin. Un jour, cette compagnie vit venir un domestique à cheval qui l'invitait à aller jouer dans un hôtel situé près d'une des portes de la ville. Ils partirent et arrivèrent à la nuit tombante devant une demeure brillamment éclairée et remplie de monde. Un domestique les fit entrer et leur dit que la maîtresse de maison leur ordonnait de ne chanter que des pièces d'amour et surtout d'éviter d'évoquer la moindre divinité. Ils s'installèrent et se mirent à jouer. Les spectateurs formaient un extraordinaire public. Ils parlaient, riaient et manifestaient leur opinion d'une voix tellement basse qu'on les entendait à peine. Les acteurs et musiciens étaient étonnés, mais ils furent franchement irrités quand ils virent que la nuit passée, sans que, suivant la coutume, on leur offrit des rafraîchissements. À la fin, exaspérés, ils jouèrent une pièce mythologique malgré les consignes qu'ils avaient reçues. Un personnage divin entra en scène, sabre en main, au bruit des tambours. Au même instant, tout disparut. Lumière, spectateurs, demeure. Et les acteurs se retrouvèrent dans un lieu complètement désert, devant la tombe d'une jeune fille de famille riche. C'était elle qui les avait invités, et ils avaient joué toute la nuit devant un auditoire de morts, ressuscités pour un temps grâce à la musique. Par le truchement de la mélodie, l'évocation du dieu a effacé l'apparition des fantômes. C'est qu'en effet, elle est une des clés qui ouvre à l'homme les portes d'une autre dimension.
Vous aviez des connaissances très précises que vous aviez découvertes dans les livres que vous aviez étudiés en France.
Oui.
Or, vous êtes arrivé là-bas, vous avez vu un rituel extrêmement long, extrêmement compliqué, vous avez suivi un apprentissage très dur. Est-ce que le taoïsme que vous découvriez sur place, vécu, était le même que celui que vous imaginiez avant, ou alors quel est le véritable taoïsme?
Oui, alors c'était en effet très différent, et quand je suis revenu après cette longue période, après 8 ans donc, là-bas, et que j'ai commencé mes cours ici, il y a eu même des gens qui sont partis de mes séminaires en claquant la porte, en disant « si c'est ça votre taoïsme, nous, ça ne nous intéresse pas ». En effet, le taoïsme que j'ai découvert était insoupçonné, et on s'est même demandé si, à quel point c'était vraiment un vrai taoïsme. Mais il faut dire tout de suite que le taoïsme est une chose tellement mal définie, embrasse tellement d'aspects différents que nous avons toujours du mal à définir d'une façon précise qu'est-ce que c'est que le taoïsme au sein de la culture chinoise.
Oui, Max Kaltenmark.
Oui, effectivement, le taoïsme n'est pas un phénomène, c'est une multiplicité de phénomènes, de courants de pensée, et ceci depuis la plus haute antiquité. Vous savez que à l'époque antérieure à notre ère, il y a eu des écoles philosophiques, on appelle ça les 100 écoles. Et donc parmi ces 100 écoles, le taoïsme représente un des courants. En réalité, ce n'est pas un courant, il y en avait plusieurs, qui ont été classés sous le nom de Tao Dira, l'école taoïste, mais beaucoup plus tard. Et ce qui caractérise peut-être ces gens-là, enfin je parle des philosophes, c'est que c'était des mystiques, des quiétistes, et largement des anarchistes. C'est pourquoi d'ailleurs des personnes comme Lao Tzu et Chuang Tzu sont de personnages très mystérieux. Dans la mesure où on peut imaginer qu'ils ont existé, ils vivaient tout à fait cachés. Ils faisaient partie d'une certaine catégorie de personnes qui refusaient les honneurs de la cour ou des cours féodales et qui vivaient dans la brousse, dans la campagne, quelquefois comme des paysans. Mais quelquefois aussi, ils vivaient au milieu des autres citoyens. Ils vivaient comme tout le monde. C'était l'apparence assez stupide des gens de la rue. Mais intérieurement, ils étaient des grands saints, n'est-ce pas? Et leur sainteté rayonnait, à leur insu et à l'insu de tout le monde. Mais ça se remarquait par une certaine prospérité dans la région où ils habitaient. Enfin, c'est pour dire que le taoïsme, dès le début, est quelque chose de complexe, de flou, n'est certainement pas un système de pensée, c'est quelque chose de très, très libre et très plutôt poétique que, à proprement parler, philosophique. Je dois dire, ajouter tout de même une chose, c'est que ces philosophes étaient souvent des maîtres, mais avec une très petite école. Ils avaient quelques disciples autour d'eux, mais beaucoup moins nombreux que par exemple ceux de Confucius. Vous savez, Confucius avait un grand nombre de disciples, 70, dit la légende. Eux, les taoïstes avaient deux ou trois disciples autour d'eux, pas plus. Beaucoup plus tard, alors, c'est environ de l'ère chrétienne, du début de l'ère chrétienne, et puis alors surtout à la fin des Han, on voit apparaître des groupes beaucoup plus importants, des mouvements populaires. L'un de ces mouvements a une allure militaire et se développe dans la Chine orientale. C'est ce qu'on appelle les turbans jaunes. C'est une révolte assez violente, avec des aspects religieux, bien entendu, mais surtout militaires. Alors qu'une autre branche, un autre mouvement, est beaucoup plus, comment dire, civil et religieux, alors beaucoup plus organisé, parce que c'est le début de ce mouvement liturgique qui va se développer d'une façon assez continue, jusqu'à notre époque, puisque d'une façon assez surprenante, justement, notre ami Schipper a découvert des communautés taoïstes, enfin plutôt des maîtres taoïstes qui sont des chefs de communauté, n'est-ce pas, qui organisent la population d'une façon parallèle à l'administration officielle. Alors dans ce taoïsme dit religieux, qui s'oppose à l'ancien taoïsme philosophique, il y a aussi très nombreux courants, des écoles, qui les unes sont plus axées sur la liturgie, en effet, et d'autres sur une culture plus personnelle, une culture des principes vitaux, la longue vie, la recherche de l'immortalité par des drogues, des gymnastiques, pratiques respiratoires et autres, diététiques beaucoup.
Oui, mais il y a une chose qui me frappe énormément dans tout ce que vous avez dit. D'abord, c'est la richesse des connaissances qu'ont pu développer les taoïstes. Mais surtout, c'est ce que vous avez dit à propos des sages. Les sages, on ne les connaissait pas, ils vivaient cachés. Oui. Mais on les découvrait parce que la région dans laquelle ils vivaient était plus développée que d'autres. Enfin, ils rayonnaient, oui, les choses se passaient mieux. Alors ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai le sentiment d'un occidental se dire qu'ils connaissaient sans doute les secrets du rythme. Mais alors ça, à ce moment-là, ça se rapprocherait avec ce qu'a dit Christopher Schipper au début. C'est-à-dire que connaissant les secrets du rythme fondamental du monde, ils arrivaient à agir sur le monde, peut-être sur eux-mêmes. Et c'est ça qui m'intéresse
beaucoup.
Oui,
c'est ce qu'on appelle le Tao, le Tao Te. C'est la vertu rayonnante, n'est-ce pas, du sage ou du simple qui a vraiment concentrer son principe vital d'une façon extrêmement intense, qui lui permet de rayonner, n'est-ce pas, une espèce de vertu, que c'est quelquefois un rayonnement lumineux. Mais enfin, généralement, le taoïsme ne doit pas rayonner, justement, n'est-ce pas, il doit rester obscur. Mais il n'en est pas moins efficace.
Il y a une image que l'on retrouve souvent chez les taoïstes, c'est l'image de la roue. L'homme se situe en face du temps ou en face de la création comme l'un des éléments de cette roue. Il peut être entraîné dans un tourbillon infernal s'il représente une partie de la jante, prisonnier alors de son cycle temporel. Il peut au contraire être presque immobile s'il figure le moyeu central. Et sa démarche consistera à retrouver le centre, l'unité primordiale d'où sont issus la vie et le mouvement.
Kunzi se rendit auprès de Lao Tzu. Lao Tzu venait de prendre un bain et avait justement laissé pendre ses cheveux sur ses épaules pour les faire sécher. Assis dans un calme absolu, il semblait à peine avoir figure humaine. Kunzi se mit à attendre. Puis au bout d'un moment, il se présenta en disant « Mes yeux m'ont-ils trompé ? Ou est-ce vrai ? À l'instant, maître, votre corps était tel un arbre desséché. C'était comme si vous aviez oublié le monde et quitté la terre des hommes pour cheminer dans la solitude. » Lao Tzu dit « Je laissais mon esprit s'ébattre dans l'origine des êtres. » Kunzi dit alors « Qu'entendez-vous par là ? » Vous pourrez vous fatiguer l'esprit à ce sujet sans jamais saisir cette origine, ouvrir la bouche sans jamais arriver à l'exprimer. Je tâcherai pourtant de vous expliquer ces approches. Le yin suprême est calme et froid. Le yang suprême est agité et brûlant. Calme et froid, cela vient du ciel. Agité et brûlant, de la terre. Ces deux-là communiquent en se pénétrant, se complètent en s'harmonisant, et tous les êtres sont nés de cette fusion. Peut-être existe-t-il quelque chose qui régit cette union, mais personne n'a jamais vu sa forme. La vie et la mort, le plein et le vide, le jour et la nuit, le cycle du soleil et les phases de la lune, ces transformations se suivent sans cesse, et pourtant, personne ne connaît la force qui les engendre. La vie a ses origines, la mort sa destinée. Commencements et fins se suivent en un cycle ininterrompu, et personne n'en connaîtra jamais la fin. S'il n'en était pas ainsi, quel serait le fondement de tout ceci ? Kunzi dit « Et que veut dire s'ébattre dans une telle sphère ?» Lao Tzu répondit « Vous y trouverez la beauté parfaite, la joie parfaite. Celui qui a trouvé la beauté parfaite et qui s'ébat dans la joie parfaite, celui-là s'appelle homme parfait. » Kunzi dit « Je voudrais savoir comment atteindre cela. » Les animaux qui se nourrissent d'herbe ne s'inquiètent guère d'un changement de pâturage. Les créatures aquatiques ne se soucient point d'un changement de cours d'eau. Ils acceptent les petits changements, aussi longtemps que la grande constante n'est pas perdue. Faites comme eux, et les sentiments exagérés et inopportuns n'auront point de place en votre sein. Dans ce monde, les 10 000 êtres se rejoignent tous dans l'un. Si vous trouvez cet un et que vous vous identifiez à lui, alors vos membres, vos articulations ne seront pas plus que des particules de poussière. La vie et la mort, le début et la fin, seront tout simplement comme le jour et la nuit. Rien ne pourra vous ébranler, et surtout pas des détails tels que le gain ou la perte, la bonne ou la mauvaise fortune. Un homme se défait de ses domestiques comme de la terre ou de la boue, en sachant que son corps est plus précieux que des serviteurs. Votre valeur est en vous-même, et aucun changement extérieur ne doit pouvoir causer votre perte. Les 10 000 changements se succèdent dans ce monde, sans qu'il y ait un début ni une fin. Comment ceci pourrait-il être pour vous une source d'angoisse? Celui qui pratique le Tao comprend tout ceci.
La vision que Lao Tzu dépeint, il l'a contemplée après avoir fait retraite en lui-même. Or, les sages semblent entrevoir les secrets du monde situés à des milliards d'années-lumière. Comment est-ce possible, Max Kaltenmark?
Ils ont une vision du monde intérieur. C'est une certaine structure qui doit être la correspondance du macrocosme. N'est-ce pas ? Ils ont le corps est vraiment un petit univers. Ils disent un petit ciel-terre, parce que en chinois, l'univers, c'est ciel-terre, tianti. Hein. Un petit univers, ça veut dire le corps. Et alors, chaque composante de ce corps, de ce petit univers, a correspondance dans le macrocosme. Et c'est grâce à ces allées et venues entre le monde extérieur et le monde intérieur que en l'agençant, en le mettant en ordre, qu'on peut arriver à obtenir un équilibre, une harmonie qui permet de vivre longtemps, éventuellement vivre éternellement.
Mais la notion du corps microcosme est une chose qu'on trouve dans toutes les cultures traditionnelles. Et elle est courante en Chine, elle est à la base, par exemple, de la médecine chinoise. Mais il y a quand même une spécificité taoïste. Les mêmes idées prévalent, mais les taoïstes sont allés beaucoup plus loin dans cette correspondance entre le corps et l'univers. Le corps est l'image de l'univers, c'est plutôt le contraire. C'est que l'univers est à l'image du corps. Déjà, les mythes anciens taoïstes préconisent Lao Tzu, qui serait le philosophe taoïste, aussi comme un dieu cosmique, le corps universel, celui qui, dans une de ces phases alternantes de ce qu'on appelle la coagulation et la dislocation, la diffusion, entre une de ces phases qui sont caractéristiques du mouvement du Tao, hein, de ce grand principe cosmique, universel, transcendant, mais qui est surtout un principe du temps et du temps cyclique. Pendant une de ces phases, son corps est le monde. Et le corps humain aussi est le monde. Il s'agit tout d'abord, pour les taoïstes, de mettre de l'ordre dans ce corps, de retrouver dans ce corps une sorte de harmonie, une sorte de universalité perdue. Quand nous naissons, nous sommes entiers. Puis, par la culture et par le vieillissement, par l'apprentissage, par notre vie même, nous nous particularisons de plus en plus. C'est ça le chemin de la mort. Il faut maintenant retourner en arrière et retrouver le chemin de la vie. Retrouver l'unité perdue. Retrouver dans ce corps à nous, les taoïstes disent « mon destin n'est pas dans le ciel, mon destin n'est pas avec les dieux, mon destin est dans mon corps. C'est de moi que dépend non seulement ma vie, mais en somme la vie de l'univers tout entier. » Retrouver cette unité perdue par des choses qui sont potentiellement en nous, mais retrouver l'unité de ce qui était divisé.
C'est-à-dire redevenir comme le petit enfant, voilà. Avec en plus la conscience de cette spontanéité, parce que l'enfant est spontané sans le savoir.
Voilà. Alors l'enfant est spontané sans le savoir, tandis que la vraie spontanéité, pour les taoïstes, et d'ailleurs c'est un courant qu'on trouve partout dans la culture chinoise, c'est une spontanéité acquise à nouveau. Hein, si vous pensez par exemple à la calligraphie chinoise doit être parfaitement spontanée, les caractères qui sont si jolis, que nous admirons, n'est-ce pas, sont d'un parfait équilibre, d'un parfait naturel, on doit les écrire à la longue les uns après les autres, et ça doit être comme la récitation dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, plus qu'on écrit, plus qu'on doit se sentir à l'aise, bien dans sa peau. Hein. C'est une façon de créer, mais de créer spontanément. Or, cette spontanéité n'est pas une chose donnée au départ, C'est pas la spontanéité, par exemple, de nos jeunes qui disent « bon, je suis comme je suis et c'est ainsi que je suis spontané ». C'est une spontanéité qui vient à la fin d'un très long apprentissage.
Oui, parce qu'il faut la retrouver.
Il faut la retrouver. Oui. Or, il y a d'abord donc cette mise en ordre de notre univers intérieur, de retrouver l'équilibre perdu par un régime alimentaire approprié, par un régime respiratoire approprié, par un régime sexuel approprié. L'homme ne peut pas être sans femme, mais il faut trouver aussi l'équilibre réel là-dedans. C'est-à-dire que le yin et le yang, n'est-ce pas, qui est en chacun de nous, doit être présent.
Le yin, c'est l'élément féminin.
L'aspect féminin, n'est-ce pas, de la création, de l'univers, et le yang est l'aspect masculin, mais ils sont pas exclusifs, ils sont complémentaires. Or, en chacun de nous, n'est-ce pas, il faut trouver l'entité de notre féminité et l'entité de notre masculinité. Et une fois que cet équilibre est trouvé, on croit que justement que d'une façon spontanée, ces forces, ces énergies qu'on appelle souffle dans la tradition taoïste, que ces souffles reprennent le cycle de la création, reprennent le cycle du Tao avec lequel on est entré en osmose, ça s'appelle le Te Dao, avoir obtenu le Tao, c'est-à-dire être en contact entier avec le Tao, que spontanément on devient soi-même créateur. Comme le Tao a créé ce principe cosmique, a été à la naissance de l'univers à ses débuts, nous aussi, dans notre corps, nous pouvons, à partir de cet équilibre et de ces principes que nous avons incorporés, on peut à nouveau créer le monde. Et donc être parfaitement autonome, parfaitement libre, être à la fois nous-mêmes, notre mère, notre enfant, être à la fois vieux et jeune, et c'est justement là une des interprétations du nom de Lao Tzu, le philosophe qui est à l'origine de la tradition taoïste, n'est-ce pas? Parce que Lao Tzu, ça veut dire le vieux maître, mais ça veut dire aussi le vieil enfant. C'est l'enfant immortel qui est à la fois très vieux et nouveau-né.
Les légendes populaires que les taoïstes ont répandues glorifient les hommes qui ont réussi à atteindre un âge très avancé. Il ne faudrait cependant pas faire preuve d'une naïveté excessive et croire que le secret de l'immortalité réside dans des pratiques mystérieuses. Il est vrai que certains ont pensé que le fait de jeûner et de se nourrir presque uniquement de souffle ou d'avaler des décoctions alchimiques à base de cinabre pouvait rendre immortel. Mais les sages savent que l'alchimie la plus efficace est une alchimie de l'intériorité. L'homme porte en lui des dieux, qui ont leur correspondance dans les palais des cieux. Quand le terme de sa vie arrive, des envoyés divins viennent donner à ces dieux intérieurs l'ordre de sortir. Ces derniers s'échappent donc dans l'ultime expiration de l'homme qui meurt. On raconte qu'un vieillard, à la suite d'une chute, s'était démis la mâchoire. Ses dents n'arrêtaient pas de grincer de jour comme de nuit, terrorisant ces dieux intérieurs, car ces grincements représentaient pour eux le tonnerre et la foudre des grands dieux en colère. Quand le terme de sa vie arriva, le directeur du destin envoya des messagers pour ordonner aux dieux intérieurs de sortir. Mais les uns et les autres, c'est-à-dire les messagers divins et les dieux intérieurs, reculèrent, effrayés par le tonnerre des grincements de dents. Le vieillard, évidemment, se croyait immortel. Il vécut des années, et même des siècles. Mais étant sorti un jour d'hiver, il fut saisi par le froid de telle sorte que pendant un instant, ses dents cessèrent de grincer. Les dieux en profitèrent aussitôt pour s'enfuir hors de son corps, et il mourut sur le champ. Ce vieillard, par une circonstance fortuite, avait vécu des siècles. Mais il n'était pas devenu le créateur de son propre monde. Il le subissait sans avoir effectué le retournement essentiel. L'unité qu'il croyait avoir acquise n'était qu'une association accidentelle. Il n'avait pas rejoint l'un.
Il
Et en perpétuant cet équilibre, on arrive à devenir immortel de la sorte. Et ceux qui sont très âgés ont le grand honneur en Chine d'être les plus importants personnages. Alors qu'en France, on dit les gens du troisième âge en essayant
bien sûr.
De...
quatrième âge.
Okay. Non, la vieillesse, c'est un grand atout en Extrême-Orient. Tu vois, les personnes âgées sont très honorées. Elles sont... D'abord, leur âge prouve qu'elles ont su cultiver leur principe vital. Si elles sont parvenues à un très grand âge, c'est qu'elles ont su y faire. Et puis d'autre part, elles sont pleines de sagesse, d'expérience.
C'est une chose, une expérience qu'on peut avoir encore quotidiennement. En Chine, oui, des enfants qui arrêtent un vieillard dans la rue et se placent devant lui et le regardent de haut en bas en disant « Qu'est-ce que t'es vieux, c'est formidable
hein ?» Oui, mais c'est un compliment, tandis que chez nous... Je crois qu'en Chine, on peut très bien dire à une dame qu'elle est âgée, sans la froisser. Tandis que chez nous, non, ce ne serait pas très bien vu. Non, il est certain qu'il y a une espèce de mythologie de la vieillesse, n'est-ce pas, qui est en effet représentée très bien par Lao Tzu, le vieux philosophe, ou le vieil enfant, qui est né avec les cheveux blancs.
Mais en vous écoutant, on a le sentiment que celui qui connaît le secret des rythmes profonds de la nature peut devenir un créateur. Il a le pouvoir d'accélérer ou de ralentir à sa guise le temps et donc de transformer le monde. Or, me semble-t-il, ce pouvoir ne peut être acquis que par une très longue soumission aux cadences de la vie. En ce sens, la perte du paradis pourrait être pour les taoïstes l'oubli du rythme fondamental. D'autre part, dans cette adhésion au rythme que le sage taoïste essaie d'accomplir, il apparaît qu'il cherche à éliminer sa propre personnalité. Et par ailleurs, il désire devenir immortel en restant ce qu'il est, c'est-à-dire un individu. Il veut sauver son âme, mais aussi son corps, et demeurer ainsi un être tout à fait particulier et distinct des autres. Mais est-il réellement possible de concilier ces deux éléments contradictoires, celui de l'individualité et de son rythme particulier, et celui du monde et de son rythme universel? Autrement dit, comment peut-on à la fois englober le monde, se fondre en lui et rester soi-même?
Comment on aurait un rythme personnel et un rythme universel? Comment notre corps, qui est toute matière, n'est-ce pas, pourrait y avoir un rythme ou subir les ordonnances d'une loi différente de l'univers tout entier? L'opposition que vous faites là entre sauver son âme et sauver son corps, c'est une opposition tout occidentale. La notion de l'âme distincte du corps n'existe pas du tout, n'est-ce pas? Dans la cosmogonie chinoise, on explique que tout est matière, n'est-ce pas?
Oui, avec cette rectification qu'il faut que toute matière est spirituelle.
Oui, qu'elle est spiritualisée.
Elle contient de l'esprit.
Elle contient de l'esprit. Dans la cosmogonie chinoise, on conçoit d'abord que l'univers était dans un état chaotique, c'est-à-dire mélangé. Toutes les essences, tout ce qui a créé notre monde diversifié, était là... en osmose indifférenciée et en tant que potentialité. C'est sous l'influence du temps, c'est-à-dire justement sous l'influence du Tao, que cette matrice, ce chaos primordial, cet utérus, n'est-ce pas, est venu à maturité et qu'il y a eu parturition, différenciation. Elle s'est crevée, ouverte. Et ce qu'on appelle les souffles, les énergies primordiales, se sont ainsi différenciées. Les plus légers ont formé le ciel, les plus lourds ont formé la terre. L'homme est un mélange de tout. L'homme est un incorpore, c'est le cas de dire, toutes les énergies de l'univers. Et ces différents aspects dont l'homme, être composite par excellence, est fait, ont chacune leur transcendance. C'est-à-dire que chaque chose, chaque phénomène, chaque matière, chaque énergie... est tel qu'il est, il a en plus une force, une énergie qui le dépasse. D'où la notion chez les taoïstes que l'homme n'a pas une âme, n'est-ce pas une âme, il en a plusieurs. Il a une âme senseur qui réside dans le cœur et qui est une espèce d'esprit qui veille à l'ordre, mais il a aussi des âmes tout à fait matérielles, des âmes de ses ossements, de son essence spermatique, et qui sont beaucoup plus liées à la terre. Et qui veulent aussi retourner à la terre. Cet être composite que l'homme est, il a été coaguler pour un instant, puis il ira se disloquer à nouveau sous la même loi universelle que tout ce qui est un début est aussi une fin. Les forces qui nous composent sont agglomérées, puis ils sont aussi centrifuges. Ils veulent se libérer, ils veulent disloquer le corps et provoquer la mort, donc.
Autrement dit, les dieux que nous avons en nous, puisque c'est ainsi qu'il parle, il y a des bons et des mauvais. Et alors ce sont les forces des uns contre les forces des autres.
Ils ne sont pas bons et mauvais, ils correspondent chacune à leur essence. Mm. Mais ils sont bien tous matériels, ils sont bien tous matières. Il y a des matières plus éthériques et des matières plus concrètes. Mais tout est matière, il n'y a pas de division, si vous voulez, entre notre esprit et le corps, avec ce dualisme que nous avons des manichéens ou d'autres dualistes anciens, où tout ce qui est esprit est lumière et est bon et est céleste, et tout ce qui est matière est terrestre et donc diabolique, démoniaque.
Non, mais enfin, plus exactement, c'est une différence de raffinement. Oui. Exactement comme vous aviez dit, les éléments purs se montent, deviennent le ciel au moment de la création, n'est-ce pas ? Et les aimants lourds deviennent la terre. Mais il n'y a pas opposition absolue entre ces
deux. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas un dualisme, il n'y a pas un système dualique.
Il y a une continuité entre les deux, n'est-ce pas ?
Alors, le premier devoir, en somme, est de garder tout cela bien en vous, donc de ne pas vous extérioriser d'une façon abusive, par des excès, en mangeant trop, en faisant trop l'amour, en étant trop heureux ou trop triste. Vous créez des lacunes en vous. Vous projetez trop de force, vous dépensez trop de force vitale, et donc, dans votre être, vous laissez un vide qui peut être occupé par des influences extérieures néfastes. L'origine de la maladie, l'origine de la mort est exactement là. N'est-ce pas ? Dans les communautés taoïstes, la maladie, c'est un péché. Celui qui est malade, c'est un pécheur parce qu'il ne s'est pas occupé de ce qui était son devoir fondamental, c'est-à-dire de garder son unité intérieure et de veiller à sa vie, de nourrir sa vie, comme disent les taoïstes Yang Shen.
Maître Ti était assis sur un escabeau, les yeux levés au ciel, respirant faiblement. Son âme devait être absente. Étonné, le disciple Yo, qui le servait, se dit « Qu'est-ce si ? Se peut-il que sans être mort, un homme devienne ainsi insensible comme un arbre desséché, inerte comme la cendre éteinte ? Ce n'est plus mon maître. » « Oui, c'est encore lui, » dit Qi, revenant de son extase. « J'avais seulement pour un temps perdu mon moi. » Mais que peux-tu comprendre à cela, toi qui ne connais que les accords humains, pas même les terrestres, et encore moins les célestes ? Veuillez essayer de me faire comprendre par quelque comparaison, dit Yo. Soit, dit le maître Ti. Le grand souffle indéterminé de la nature s'appelle vent. Par lui-même, le vent n'a pas de son, mais quand il les émeut, tous les êtres deviennent pour lui comme un jeu d'anges. Les monts, les bois, les rochers, les arbres, toutes les aspérités, toutes les anfractuosités résonnent comme autant de bouches, doucement quand le vent est doux, fortement quand le vent est fort. Ce sont des mugissements, des grondements, des sifflements, des commandements, des plaintes, des éclats, des cris, des pleurs. L'appel répond à l'appel. C'est un ensemble, une harmonie. Puis, quand le vent cesse, tous ces accents se taisent. N'as-tu pas observé cela en un jour de tempête ? Je comprends, dit Yo. Les accords humains sont ceux des instruments à musique faits par les hommes. Les accords terrestres sont ceux des voix de la nature. Mais les accords célestes, maître ? C'est, dit maître Ti, l'harmonie de tous les êtres dans leur commune nature, dans leur commun devenir. Là, pas de contraste, parce que pas de distinction. Embrasser, voilà la grande science, la grande parole. Distinguer, c'est science et parler d'ordre inférieur. Tout est un.
Le taoïste recherche l'unité, une harmonie en lui et par rapport au monde. Lorsqu'il se sent bien dans son être, c'est qu'il est sur la bonne voie. Au contraire, le fait d'être malade est le signe d'une harmonie brisée, d'un ordre que l'on ne saurait plus créer. Ce désordre est-il lié à la notion d'une faute ? Le péché tel que nous l'entendons en Occident existe-t-il pour les taoïstes ? Et s'il existe, peut-on l'effacer par des purifications ou même des confessions que l'on ferait, par exemple, au commencement des rituels?
On devait d'abord se confesser. Dans les traditions du taoïsme communautaire et même dans la pratique individuelle, le fait de se présenter et de s'accuser de ses fautes est attesté partout. Simplement là aussi, il ne s'agit pas pour autant d'une confession telle que nous l'entendons, une confession de mes péchés individuels. J'ai été très surpris, quand j'étais donc initié à la pratique taoïste, de voir que les confessions des péchés étaient toujours des formules toutes faites. Et quand je me suis interrogé là-dessus, en disant mes idées particulières, ce que moi personnellement j'ai pu commettre comme faute, où est-ce que cela intervient, on m'a dit nulle part. Ces formulaires couvrent tous les péchés possibles et imaginables. Et elles sont présentées sous une forme correcte, parfaite. Ce que vous, en tant qu'individu, ce que vous avez bien pu commettre comme petite chose, ça n'intéresse absolument pas le monde, ça n'intéresse pas l'ordre cosmique. N'est-ce pas ? De la même façon, j'aimerais rajouter que pendant cette longue période d'apprentissage, on ne m'a jamais non plus demandé si j'y croyais, si je croyais au taoïsme, si j'étais un adepte du taoïsme. Parce que cela, mon allégeance individuelle n'a aucune importance. La vérité est la vérité, le taoïsme se veut une science naturelle, une science de la nature, et les choses sont telles, la loi cosmique est telle, que moi personnellement j'ai des idées là-dessus ou pas, ça ne rajoute ni retranche rien à cette vérité. En réalité, la pratique la plus courante pour rétablir l'équilibre intérieur est de faire absorber par le malade des souffles qui sont manquantes. Et ces souffles se concrétisent, ces énergies se concrétisent sous une forme écrite. On considère en effet qu'à l'aube des temps, quand l'univers s'est créé, les essences, les archétypes se sont d'abord manifestés sous une forme d'écriture.
Alors que chez nous, le verbe est créateur. Chez les Chinois, c'est l'être. Plutôt le caractère écrit, à l'origine, des caractères sous forme de cubes lumineux sont apparus dans le vide, dans l'espace vide, puisqu'il n'y avait encore rien que l'espace. De chaque coin de ces cubes émanait un rayon lumineux, n'est-ce pas ? Ce sont ces caractères primordiaux qui sont réellement créateurs, d'après les anciens textes, qui sont la première révélation. Il semble que ce soit identique à une série de talismans, qui sont les talismans du Lingpo, qui sont au nombre de 5, donc orientés, puisque les Chinois s'orientent toujours selon les orients et au centre, donc 5 directions. Il y a donc 5 talismans pour chacune de ces directions de l'espace, et qui gouvernent donc le monde, et en particulier les cinq mondes sacrés. Il y a la Chine traditionnelle, vénérait cinq mondes sacrés, n'est-ce pas, qui donc gouvernent le monde, le stabilisent. En réalité, il y a toute une légende selon laquelle un héros de la Chine ancienne se serait servi de ces éléments pour vaincre une grande inondation. Puis, à la suite de ses travaux, ces talismans ont été cachés dans une grotte. Cette grotte était d'ailleurs un labyrinthe. Et elles ont finalement été découvertes à l'intérieur de ce labyrinthe. Enfin, il y a eu toutes sortes de vicissitudes. Et finalement, elles ont été divulguées dans le monde. Et ce sont des talismans de guérisseurs, des talismans qui permettent d'entrer dans la montagne pour chercher des plantes, etc.
En réalité, ils pouvaient servir à tout à la fois. Le savoir initiatique était justement de connaître cette écriture. De connaître cette écriture des dieux.
Oui. Ces talismans sont décrits en effet dans une écriture tout à fait spéciale.
Oui,
ce ne sont pas des caractères comme nous les voyons dans l'écriture actuelle. Ce ne sont même pas une écriture archaïque, c'est vraiment une écriture ésotérique. Hein.
Et elles ont été, non pas donc créées par les hommes, elles ont été créées spontanément. Et elles permettent donc d'établir une relation, une communication entre ces forces qui spontanément les ont créées, c'est-à-dire le Tao et nous. C'est le moyen de communication par excellence entre nous et le Tao. Et c'est à cela qu'en effet, elles servent. Tout d'abord, ces caractères ésotériques sont des noms des différents souffles. Dans ce nom se cristallise leur essence, leur qualité fondamentale. Si donc il vous manque un souffle à l'intérieur de vous, en absorbant sous forme d'écriture sur un papier un talisman, comme on disait, mais en réalité une sorte de non-contrat, parce que c'est ça le nom chinois, ce nom contractuel, vous pouvez absorber ce souffle qui vient donc rétablir le manque qui était à l'intérieur de vous. Mais avant que vous puissiez l'absorber, souvent on le brûle, on le détruit, et vous absorbez les cendres. La transformation digestive, n'est-ce pas, est aussi une destruction. Afin que ces signes retrouvent en effet leur puissance originale, il faut qu'elles soient détruites. C'est ce que nous appelons la destruction et donc aussi le sacrifice des écritures. Le taoïsme ne connaît pas, dans sa forme liturgique, dans son rituel et dans toute sa pratique, ne connaît pas les sacrifices sanglants, ne connaît pas les offrandes, etc., telles que nous les pratiquons dans toutes les religions du monde. Il n'y a pas d'autel non plus tel que nous le considérons, n'est-ce pas? L'autel taoïste est une chose changeante. C'est tout entier en papier et normalement ça doit être entièrement détruit à la fin du rituel. Les livres aussi, les livres qu'on récite, les livres dont je parlais tout à l'heure, en principe, après la récitation, pour que la parole devienne efficace, l'écriture doit être détruite et les livres sacrés étaient brûlés après chaque service. Aussi, pour établir la communication, d'une part, on devait absorber, comme je vous dis, dans la pratique individuelle pour guérir la maladie, les signes sacrés et les détruire par la digestion ou les absorber sous forme brûlée. Mais aussi, quand nous voulons, à la suite d'un grand service dont je vous ai parlé au début de l'émission, annoncer tout le mérite que nous avons accompli en faisant ce rituel et cette retraite, nous voulons l'annoncer à l'univers entier et pour que, par retour, n'est-ce pas, toutes sortes de félicités nous incombent à la suite de ce mérite, il faut envoyer des lettres aux cinq coins de l'univers. Ces lettres aussi sont écrites dans cette écriture spontanée. Et ce sont même les mêmes écritures qui ont été révélées spontanément à l'aube des temps qui sont recopiées. D'abord, ils servent à reconstituer l'espace sacré, ils délimitent l'espace sacré, et à la fin du rituel, ils sont détruits avec d'amples cérémonies, après purification, prière, danse, musique, tout à fait comme on fait un sacrifice dans d'autres religions.
Jadis,
quand les trois souffles originaux s'amalgamèrent, ils firent ensemble le ciel antérieur. De là, le yin et le yang se divisèrent, formant pour la première fois le corps de l'ultime fête. Les sons de jade ne se firent pas encore entendre. Les constellations n'étaient pas encore en place. C'est alors que soudain, les souffles célestes se répandirent, se mélangèrent et se nouèrent au milieu du grand vide, créant la musique universelle des huit vents. Ils s'accumulent, se joignent, se mélangent, tourbillonnant dans l'empyrée pourpre. Sensibles aux phases du Tao, tantôt ils apparaissent, tantôt ils disparaissent. Ni fumée, ni poussière, ni brume, ni nuages. Ce furent des signes de 10 000 toises de hauteur, dont le son rimait avec les huit vents. Ainsi se manifesta la merveilleuse essence des trois souffles primordiaux, la sublime floraison des cinq éléments. Cette harmonie de jade du grand Tao se répandit à travers le vide parfait. Les immortels célestes vénérèrent cette sainte révélation et en firent copie. Quels signes étranges, à la fois ronds et angulaires, bizarrement conformés, enchevêtrés et dédaléens. Certains les appellent les écritures parfaites, d'autres les sans-images. C'est là le trésor des hauts cieux que nul ne peut entendre dans le monde ici-bas. Ils furent cachés dans le sac de brocart des nuages et gravés sur des tablettes d'or pourpre, puis distribués aux cinq anciens, afin de fixer les 10 000 contrées. C'est ainsi que le ciel est tenu par les cinq planètes et que la terre est gérée à partir des cinq pics sacrés. Le temps est ordonné en cinq cycles, tandis que la société des hommes est régie par les cinq principes. Tout ceci vient des écrits sublimes des cinq ancêtres qui possèdent la quintessence des cinq éléments. Grâce à eux, on peut protéger le pays et connaître la paix dans sa maison, rétablir l'ordre et écarter les mauvaises influences. Ceux qui leur rendent un culte sincère auront la preuve de leur efficacité merveilleuse. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'assemblée de notre village, nous faisons ce sacrifice afin d'obtenir la paix dans le monde présent.
Cet admirable texte que vous nous avez traduit, Christopher Schipper, fait référence à ces écritures surgies des souffles du commencement. Or, ce sont précisément ces écritures que le grand maître, dans la liturgie taoïste, va détruire. Là se situe le sacrifice et sans doute la métamorphose. Il est en effet étrange d'observer la destruction de ce qui, dans la tradition, est créateur. Car ce n'est pas le souffle qui est créateur, ni le verbe, mais véritablement l'écriture formée de souffle. Est-ce donc pour renouveler leur pouvoir créateur qu'on les brûle? Dans cette liturgie, l'officiant poursuit, semble-t-il, un but bien précis.
C'est la destruction par le feu de ces écritures qui permet de les rendre efficaces et de permettre de réaliser définitivement le contact avec le Tao dans la communauté donnée.
Il ne faut pas oublier, voyez-vous, le caractère sacré pour les Chinois de toute écriture ou de tout texte calligraphié ou même imprimé, au point que dans la Chine ancienne, il était absolument immoral de jeter un papier qui portait des caractères inscrits. Il y avait des associations pieuses qui étaient chargées de récolter, de ramasser les vieux papiers qui portaient des caractères pour les brûler avec beaucoup de soin pour qu'ils ne soient pas pollués et jetés à la poubelle. Voyez-vous ?
Oui, et en même temps, on considérait justement que le caractère était une chose qui représentait l'essence même d'une chose, d'un être, au point que le détruire était, pour ainsi dire, détruire un être spirituel. Les caractères étaient représentait à un tel point l'essence des choses que il y a des légendes qui indiquent que les grands calligraphes arrivaient d'écrire avec tant de spontanéité que les caractères se transformaient dans l'être qu'ils étaient censés dénommer. Comme par exemple, vous faites le caractère pour tigre, roux, le plus parfait, et bien vous trouvez que demain matin, en vous levant, vous trouvez un tigre dans votre maison. Pendant la nuit, n'est-ce pas, le caractère s'est transformé en une bête vivante. Alors pour revenir à la pratique taoïste proprement dite, parce que ce que nous venons d'évoquer, c'est commun à toute la civilisation chinoise, mais dans la spécificité taoïste, les écritures, et surtout l'écriture sainte, qui était tout d'abord une sorte de rayonnement de l'univers à sa création, est aussi le rayonnement du maître taoïste. C'est le rayonnement de son corps. C'est à partir des souffles, des énergies de son corps qu'il peut créer des écritures qui sont des souffles de son univers intérieur. Et c'est en répandant ses souffles, puti, comme on dit dans la nomenclature taoïste, qu'il donne à un chacun des fidèles, à chacun des gens qui l'entourent, ce dont ils ont besoin, et ainsi il fait régner un état de bien-être, l'état de la grande paix, Taiping, dans toute la région qu'il habite. C'est ainsi qu'il pratique son enseignement, mais c'est un enseignement sans parole. C'est son activité par rayonnement et par un rayonnement de son corps. Comme on dit dans les textes taoïstes, le sage enseigne non par des paroles, mais par son corps.
Le sage créateur de son monde et de son temps se tait. Les écritures que l'on sacrifie, nul ne peut les murmurer. Leur son est inconnu. Au terme de leur longue quête de la fleur d'immortalité, les hommes rencontrent le silence. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il n'existe pas de discours de l'initié. Le Tao est indicible. Seule la poésie et la musique, par une fulgurante illumination, peuvent parfois suggérer le secret des sages. Mais encore faut-il avoir appris à écouter, comme nous y convie le poète Tao Tsin qui vivait en Chine au 5e siècle.
J'ai bâti ma hutte là où il y a des habitations humaines. Mais je n'entends le bruit ni des chevaux ni des voitures. Voulez-vous savoir comment cela se peut? Quand le cœur s'évade, le paysage lui ressemble. Je cueille des chrysanthèmes sous la haie de l'Orient et regarde pensivement au loin vers les collines estivales. L'air des montagnes est frais à la chute du jour. Les oiseaux en volant s'en retournent deux par deux. Il y a un sens profond dans cette harmonie. Mais si nous voulons l'exprimer, soudain les mots nous manquent.
La série de Claude Métra et Philippe Nemo, L'autre scène ou Les vivants et les dieux, Denise Barrère vient de vous présenter Les taoïstes ou Les maîtres du temps, avec les témoignages de Max Kaltenmark et de Christopher Schipper. Texte taoïste dit par Roger Brett et Roland Ménard. Chef opérateur du son, Yann Parentehen. Collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Marie-Vonne Noël, réalisation Georges Godbert.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 avril 1977. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.